Voilà, bon retour à chacun. Gilles, est-ce que tu es d'accord qu'on prenne les questions qui sont arrivées pendant la pause pour débuter?
Oui.
Première question, quel est cet ange qui annonce l'évangile éternel? Est-il un homme?
On a déjà dit que le mot angelos en grec a le sens de messager avant tout, et que c'est le contexte qui doit déterminer si c'est un messager angélique ou humain. Disons que dans le passage qui nous préoccupe, les circonstances favorisent un messager angélique là, qui vole en plein milieu du ciel, c'est-à-dire au zénith. Et puis voilà, le fait qu'il vole en plein cœur du ciel à son point le plus élevé semble favoriser un messager angélique, c'est ce que je dirais.
Une autre question, l'expression on leur donne n'implique-t-elle pas un consentement nonchalant? On leur donne, mais ils acceptent aussi sans en être totalement conscients.
Je pense que ça fait allusion à, dans la traduction Darby, c'est plutôt passif, genre il leur fut donné, hein,
Exactement, ouais. Je suis en train de
ouais,
chercher le verset.
il leur fut donné. Puis ça revient souvent. Ben, écoutez, ce que ça souligne avant tout, cette expression-là, surtout la manière dont c'est dit passivement, là, dans une voix passive du verbe, il leur fut donné, ça souligne la souveraineté de Dieu. Dans ce qu'il fait, quand le verbe, bien entendu, sous-entend une action de Dieu, de la part de Dieu, ça nous parle surtout de sa souveraineté. Et c'est une construction qui revient très, très souvent. Il faut simplement voir le verset précisément, là, lequel qu'on parle, pour être certain qu'on dise la bonne chose. Mais très souvent, quand on voit ça, il leur fut donné. Peu importe c'est quoi, mais quand c'est Dieu qui est derrière l'action, ben ça souligne sa souveraineté et son omnipotence aussi.
On poursuit aussi avec une question au chapitre 14 et au verset 15 en particulier. Je n'ai pas bien compris l'interprétation comme quoi un fils d'homme soit peut-être le Christ et qu'il pouvait recevoir des ordres d'un ange.
Oui, c'est ce que nous avons souligné tout à l'heure. C'est la façon dont on interprète les paroles de l'ange qui détermine s'il s'agit d'un commandement ou s'il s'agit simplement d'une proclamation. Et je crois que dans le contexte, puisque les anges, après tout, sont au service de Dieu, ils sont là pour proclamer, c'est ce qu'ils font à travers toutes les Écritures. Et cet ange-ci fait simplement que proclamer, que le moment de juger pour Christ est venu. Donc, en fait, c'est comme si l'ange disait, voilà, selon la révélation progressive de Dieu, le Messie doit maintenant juger et c'est ce qu'il va faire. Mais il le fait dans un contexte de dialogue avec le Fils de l'homme lui-même.
Merci pour cette réponse. Et puis la dernière, je pensais qu'elle allait venir plus vite. Merci à celui qui l'a posée. Peut-on identifier les 144 000? Et comment comprendre ce chiffre? Ou comment comprendre ce chiffre?
En tenant compte du texte précédent dans l'Apocalypse, c'est-à-dire le chapitre 7, il me semble que c'est une interprétation littérale qui a le plus de sens à mes yeux. C'est de comprendre littéralement qu'il s'agit de Juifs croyants pendant la période de la 70e semaine de Daniel qui seront principalement des témoins des œuvres de Dieu et particulièrement du message de l'Évangile aussi. Donc, on a souligné que ici, Jean ne répète pas les caractéristiques propres à leur groupe ou identification ethnique, c'est-à-dire qu'ils sont 12 000 de chaque tribu d'Israël. Mais les liens communs qu'on a soulignés entre les deux groupes suffisent pour croire qu'il s'agit en fait du seul et même groupe, donc c'est 12 000 Juifs de chaque tribu d'Israël.
Merci Gilles. Et puis il y a encore une question qui est arrivée qui me paraît aussi intéressante au verset 15. De quel temple s'agit-il?
Ah, OK. Dans le contexte ici, quand on parle d'un ange qui sort du sanctuaire, littéralement, ça, c'est la demeure éternelle de Dieu. C'est juste une façon de parler du ciel lui-même. Donc, il sort de la présence même de Dieu. C'est simplement que le terme naos, qui n'est pas hieron, qui signifie temple, Et ici, c'est naos qui signifie sanctuaire. Ce mot-là met l'accent sur l'aspect de sainteté de Dieu. Donc, c'est la sainteté de Dieu dans un sens qui a été offensé, qui maintenant réagit dans un sens qui rétribue les hommes pour leur péché à cause de cette sainteté offensée. Donc, c'est vrai que le mot sanctuaire met l'accent sur l'aspect sacré de la présence même de Dieu, pour ne pas dire de Dieu lui-même, cet aspect sainteté absolue. Et c'est une image du ciel, tout simplement, dans ce contexte-ci.
Parfait. Je te remercie pour ces questions et puis ces réponses plutôt. Et puis, je te laisse poursuivre.
Et puis, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, je continue le texte et puis tout ça, mais là, je vais moi-même revenir parce que, bon, j'ai suivi la structure du cours, tout ça. J'aimerais beaucoup m'attarder sur certains détails, mais le temps nous manquerait. Mais franchement, il y a un détail remarquable qu'il vaut la peine de souligner dans ce chapitre 14. C'est au sujet d'une expression qui est utilisée deux fois et possiblement avec un sens assez différent dans les deux cas. C'est l'expression « le vin de la fureur ». Nous trouvons cette expression au verset 8 en lien avec Babylone. Ça vaut vraiment le coup. Donc, relisons le verset 8, chapitre 14, où il est dit « elle est tombée, Babylone la grande ». Regardez ce qui est dit. « Qui a fait boire, c'est elle, Babylone, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son immoralité sexuelle. » Je ne sais pas si on réalise là, mais l'expression « vin de la fureur » qui normalement décrit la colère de Dieu pendant la grande tribulation, maintenant est appliquée directement à Babylone comme étant le sujet de ce vin-là, comme si ça venait de elle. Et dans ce sens-là, il faut comprendre ce que signifie probablement l'expression. Normalement, le mot grec « thumos », qui signifie « fureur » ou « colère », mais c'est vraiment « fureur » pour le distinguer de « orgue », qui lui signifie « colère ». C'est une fureur dans le sens que c'est une colère plus intense encore. Donc, normalement, le mot « thumos » décrit une colère très intense, mais il peut aussi avoir le sens, et c'est le cas ici, selon moi, d'une très grande convoitise. Donc, quand on parle de la fureur ici, c'est qu'elle a fait boire à toutes les nations cette immense convoitise d'immoralité sexuelle. Elle a entraîné à sa suite des gens dans le péché sexuel. Mais là, ça met en contraste ces 144 000 qui n'ont pas été séduits, qui ne sont pas tombés dans son piège. Cette immoralité sexuelle, elle est tellement dominante, elle est tellement puissante, elle est tellement grande que beaucoup sont tombés dans le filet. Ce n'est pas pour rien que dans les Proverbes, on parle de cette femme qui amène les gens sur le chemin du Hadès, du Sheol, du séjour des morts, de la mort. Bref, elle amène les gens directement en enfer, cette femme prostituée, à cause de la convoitise sexuelle et de la séduction. Frères et sœurs, je me demande des fois si on réalise à quel point le péché sexuel est grave, est une horreur aux yeux de Dieu. C'est une abomination terrible. Puis on ne s'en rend pas compte parce qu'on vit là-dedans. Et même aujourd'hui, je veux dire, c'est un mode de vie, la sexualité. C'est en fait la débauche sexuelle, pas la sexualité, parce qu'elle a sa place, la sexualité, dans le contexte du mariage. C'est un don de Dieu, c'est une création de Dieu, mais totalement déformée par le diable. Et puis voilà, on voit cette caractéristique ici au point de qualifier cette passion sexuelle sans frein d'un vin de fureur. Vous imaginez, c'est impressionnant. La même expression revient tout de suite après dans le verset 10. Et là, l'expression est appliquée à la colère de Dieu parce qu'il est dit ici, lui-même aussi, c'est-à-dire celui qui va tomber dans le système de la bête impliquant même cette débauche sexuelle, eh bien, lui-même va boire du vin de la fureur de Dieu. Et cette fois-ci, l'expression a tout à fait un sens différent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir part ou leur part à ce jugement sévère et intense de la part de Dieu contre le péché. Donc, deux expressions identiques, vin de la fureur, mais qui ne signifient pas du tout la même chose. On parle plutôt d'une très, très grande convoitise dans le monde, dans le domaine sexuel exercée par Babylone, alors que dans le verset 10, on parle de la colère de Dieu contre, entre autres, ses péchés et cette attitude. Je croyais que c'était vraiment important de souligner cela, ce qui nous prouve quelque part qu'une même expression, dite exactement dans les mêmes mots, n'a pas forcément le même sens. C'est vraiment le contexte qui nous aide à mieux comprendre. Vous remarquerez bien les mots si vous n'êtes pas convaincu. Remarquez la structure de la phrase. Babylone a fait boire du vin de la fureur de sa fornication. C'est elle qui l'a fait boire à toutes les nations. Donc, forcément, il y a un sens différent que de la colère. Quoi qu'il en soit, et là, je vais mettre un bémol, il peut être possible que c'est dans le sens que par sa débauche, elle a amené les gens à goûter au même châtiment qu'elle. Là aussi, là, ça aurait du sens et ça parlerait à nouveau du vin de la colère de Dieu. Mais la structure grammaticale, j'ai un peu de peine avec ça parce que ça dit quand même que c'est le vin de la fureur de sa fornication. Et même si c'est le jugement qui est attribué autant à elle qu'à ceux qui vont l'avoir suivi, le sens de convoitise passionnée est vraiment présent là. Puis voilà, les deux sont possibles. Mais je voulais vous souligner à quel point une expression semblable parfois peut avoir une connotation assez différente dans un même texte. Allons-y maintenant avec la section suivante. C'est en haut de la page 21 de vos canevas de notes, le jugement des sept coupes. Et nous avons premièrement bien le chapitre 15 que nous allons aussi regarder en détail. Jean voit un troisième et dernier signe dans l'Apocalypse. Ce sont ces sept anges qui ont sept fléaux, ces sept coupes avec les jugements de Dieu. Lisons premièrement donc le chapitre 15 qui est assez court. Lisons-le ensemble. Et je vis un autre signe dans le ciel grand et étonnant. Sept anges ayant sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la fureur de Dieu. Et je vis comme une mer de verre étant mêlée de feu. Et ceux qui sont vainqueurs sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer de verre, ayant des cithares de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant: Grandes et étonnantes sont tes œuvres, Yahweh Dieu, le Tout-Puissant. Juste et véritable sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne craindra pas Yahweh et qui ne glorifiera pas ton nom? Car seul tu es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, parce que tes actes de justice ont été manifestés. Et après ces choses, je vis et le sanctuaire du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les sept anges qui avaient les sept fléaux sortirent du sanctuaire, étant vêtus d'un lin pur, éclatant et étant ceints autour de la poitrine de ceinture d'or. Et l'une des quatre créatures donna aux sept anges sept coupes d'or, étant pleines de la fureur du Dieu qui est vivant au siècle des siècles. Et le sanctuaire fut rempli de la fumée qui vient de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Ah, il y a toute une scène dramatique et très solennelle là, qui se déroule devant nos yeux quand on arrive dans ce passage. Donc, sept anges qui vont recevoir les sept fléaux qui sont le contenu de sept coupes d'or remplies de la colère et voire même de la fureur de Dieu. Ces fléaux sont les derniers dans les séries de jugements qu'on voit dans l'Apocalypse, mais pas les moindres. Ce n'est pas non plus la toute dernière manifestation de la colère de Dieu contre le péché, puisqu'il y aura encore à venir les jugements contre le péché durant le royaume messianique. Malheureusement, oui, il y aura encore du péché dans cette période. Et aussi à la fin de ce royaume, également, le jugement dernier à la toute fin. Mais ici, on parle de la dernière série de jugements de la grande tribulation. Et l'intensité de ces jugements-là est soulignée par le choix du mot grec « thumos » plutôt que « orgē », c'est-à-dire une colère qui est très intense, très, très vive. Et ce mot-là est utilisé plusieurs fois dans ces chapitres, même depuis le chapitre 14. Mais dans deux passages en particulier, les deux mots sont réunis ensemble, ce qui augmente beaucoup l'intensité des jugements de Dieu. Chapitre 16, que nous allons regarder au verset 19, qui nous parle de la coupe du vin de son ardente colère. C'est peu dire, hein? En fait, c'est dire à quel point, pardon, je cherchais mes mots, mais c'est dire à quel point cette colère est intense. Mettre les deux mots côte à côte comme ça dans la même construction grammaticale, c'est impressionnant. C'est aussi vrai dans le chapitre 19, verset 15, lorsqu'il est dit « Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant ». Wow! Quelle expression intense! C'est vraiment impressionnant. Et malgré tout, Jean voit au milieu de cette immense colère les rachetés de la grande tribulation qui glorifient le Seigneur, qui glorifient Yahweh, qui chantent le cantique de Moïse, c'est-à-dire le cantique de la délivrance que l'on trouve dans Exode 15. Il y a aussi ce cantique qui était enseigné à Israël au chapitre 32 du livre du Deutéronome. Donc, peut-être que c'est un mélange peut-être des paroles de ces deux cantiques. Quoi qu'il en soit, il s'agit clairement d'une allusion à la délivrance d'Israël du pays d'Égypte, parce que c'est un symbole par la suite de toute la rédemption de Dieu dans l'histoire. C'est un symbole de la délivrance et du Dieu rédempteur à travers toute l'histoire de l'humanité que ce cantique de la délivrance de Moïse. Mais le cantique de l'agneau ici nous parle de celui qui mène à terme la rédemption, de celui qui la rend possible depuis le tout début, qui était annoncé depuis de Genèse 3:15 déjà. Eh bien, le cantique de l'agneau est celui qu'on trouve au chapitre 5, les versets 9 et 10, et qui est appelé le cantique nouveau dans le verset 3 du chapitre 14 que nous avons vu tout à l'heure. Donc, le cantique de l'agneau, c'est celui de 14:3 et c'est aussi celui de Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et il y a quelques commentateurs qui expriment leur compréhension de manière un peu différente, mais je dirais que c'est probablement ce qu'on doit comprendre du cantique de l'agneau, puisque, après tout, c'est un cantique qui met l'accent sur la rédemption, et autant le cantique de chapitre 14 et 5 met exactement l'accent aussi sur la rédemption et celui qui la rend possible. Et après cela, donc, on entre dans la série de sept jugements des coupes qui débutent, des jugements qui visent principalement la bête et ses disciples, et nous allons les voir un à un maintenant en relisant les textes qui s'y rapportent. Premièrement, donc, on va lire l'introduction de ces sept, en fait, de ces, oui, sept coupes de jugement qui vont être versées sur la terre, le verset 1 du chapitre 16 qui nous dit ceci. « Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et étonnant, sept anges ayant sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la fureur de Dieu. » Donc, quand on parle de signes ici, c'est comme si on nous disait, voici une mise en scène symbolique qui pointe vers des événements réels. Rappelons-nous la définition d'un signe, semeion en grec, dans le Nouveau Testament. Un signe est un acte miraculeux de la part de Dieu, mais qui pointe vers quelque chose. Donc, le signe, en général, est une réalité qui pointe vers une plus grande réalité, ce qui pourrait aussi correspondre à la définition réelle de ce qu'est véritablement la typologie. Donc, une réalité qui pointe vers une autre réalité beaucoup plus grande, souvent. Et donc, ce signe dans le ciel, c'est une mise en scène que l'on voit à travers des actes symboliques d'anges qui reçoivent des coupes et qui les déversent comme ça sur la terre. Bien entendu, je ne pense pas que c'est ce qui va arriver, qu'il y aura une immense coupe au-dessus de nos têtes et que ce sera versé, puis il y aura un liquide qui va tomber sur la tête. Vous comprenez que c'est une mise en scène symbolique, mais qui pointe vers la réalité derrière les jugements qui sont évoqués dans cet acte ou ces actes symboliques. Donc, nous lisons au verset 2 au sujet de la première coupe. Et je vis comme une mer de verre étant mêlée de feu, et ceux qui sont vainqueurs sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenant, pardon, je suis carrément pas dans le bon chapitre, je me disais, mais ça n'a aucun rapport, c'est quoi que je suis en train de lire? Pardonnez-moi, là j'étais perdu, je reviens, chapitre 16, verset 2, là je vais être à la bonne place. Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Bon, ça a plus de sens maintenant. Et il y eut un ulcère mauvais et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Cette coupe maintenant frappe directement ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui l'ont adorée. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique que d'autres ne l'ont pas adorée. C'est une coupe, un jugement qui vise spécifiquement ceux. C'est précis ça. Ceux qui ont accepté, reçu cette marque et qui ont adoré la bête. Donc, ça implique que d'autres ne l'ont pas reçu. Ceux qui ont reçu le discernement pour calculer le nombre de la bête, très certainement. Ceux dont le cœur a été touché par la proclamation du message des 144 000, très certainement. Ceux qui ont porté attention aux différents messages de Dieu à travers cette période, malgré qu'elle est caractérisée par les jugements, la grâce de Dieu, certainement. On a porté attention à la grâce de Dieu et certains ne seront pas les récipiendaires de ces jugements. Ils seront mis à l'abri par le Seigneur. Ils seront protégés et gardés par lui. D'autres sont aussi morts martyrisés, bien entendu, parce qu'ils se sont opposés quelque part à ce système. Mais ils sont aussi en sécurité concernant leur salut et leur âme dans la présence de Dieu. Donc, cette coupe-là qui va être déversée avec un ulcère mauvais, douloureux, ce n'est pas sans nous rappeler cette poussière qui avait couvert le pays d'Égypte dans une des plaies qui avait frappé l'Égypte. Vous lirez Exode 9. Les versets 9 à 11 à ce sujet pour voir et comprendre ce qui est déjà arrivé et qui va se reproduire maintenant à une échelle beaucoup plus grande, bien entendu. Quand on parle d'un ulcère mauvais, littéralement, le terme qui est utilisé parle du mal qui est ressenti tellement c'est intense et est synonyme de douleur en réalité. Donc, on le voit que ce sera aussi douloureux, un mal grave, dangereux, qu'on pourrait utiliser aussi ces termes qui sont synonymes du grec. Quelle intensité, c'est incroyable. Ensuite, on arrive à la deuxième coupe au verset 3. Là, je vais m'assurer que mon logiciel ne m'a pas joué un tour. OK, on est bien au verset 3 du chapitre 16. Et le deuxième versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang, entre parenthèses, comme d'un mort. Et toute âme de vie mourut, les choses qui sont dans la mer. Ici, nous avons un jugement qui est semblable à celui de la deuxième trompette, sauf que l'étendue est maintenant beaucoup plus grande. Ce n'est pas seulement le tiers, comme on voyait avec la trompette, mais tout ce qui est dans la mer. Et c'est aussi un jugement direct, sans l'utilisation d'une montagne. Vous vous rappelez au niveau du jugement de la deuxième trompette, vous pourrez comparer par la suite. D'ailleurs, cette différence d'intensité est ce qui nous amène à croire qu'il s'agit de trois séries consécutives de jugements et non pas d'une manière différente de décrire les mêmes jugements. Parce que même si certains de ces jugements-là se ressemblent beaucoup et touchent au même domaine, après tout, il s'agit bien de la création et de l'homme sur cette terre, ce n'est pas surprenant de retrouver les mêmes sphères dans les jugements. Ben, l'étendue et l'intensité est vraiment différente, franchement. Donc, ce n'est pas à même échelle. C'est très différent. Troisième jugement, celui de la troisième coupe, versets 4 à 7, chapitre 16. Je lis. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux disant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais le saint, parce que tu as jugé ces choses, car ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel de l'encens disant, « Oui, Yahweh, Dieu, le Tout-Puissant, et véritable et juste sont tes jugements. » C'est comme une réaction qu'on pourrait s'attendre ici, parce que l'intensité est tellement terrible, les jugements sont tellement grands, qu'on ressent presque le besoin de justifier Dieu dans un sens. Bon, vous comprenez, là, je ne veux pas vraiment pas dire et sembler vouloir dire que Dieu doit être justifié dans ses jugements, mais l'intensité est terrible et on ressent dans les proclamations qui sont faites ici le besoin de rappeler aux hommes que Dieu est juste dans ses jugements, qu'on ne pourra pas lui reprocher quoi que ce soit. Et même si les hommes vont blasphémer de façon incroyable, eh bien, Dieu est juste dans ses jugements. Il est parfaitement juste. Même si on est choqué devant la dimension de ses jugements, même si on n'arrive pas à comprendre et qu'on ne sait comment expliquer une telle intensité, Dieu est juste. Dieu est saint. Et ce qu'il fait est parfaitement mérité de la part des hommes. Cette plaie-là, ou ce fléau, ou cette coupe, elle est particulière parce qu'elle reçoit plus d'explications que les deux premières. Et encore ici, on peut comparer avec la troisième trompette. C'est un jugement qui est particulièrement lié au martyr des saints. Dieu vengera les saints et les siens. Et c'est vrai dans les deux sens. Puis vous savez que le Seigneur a dit constamment, à travers sa révélation progressive à son peuple, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour ne pas exercer nous-mêmes la vengeance, c'est au Seigneur qu'elle appartient. Vous savez, nous devons rester continuellement compatissants vers les hommes, même les persécuteurs, parce qu'ils sont perdus et le châtiment qui les attend est tellement terrible. Et là, on parle de jugement sur la terre, mais celui qui va suivre est encore plus terrible, celui de l'enfer. C'est pourquoi nous, ce n'est pas un esprit de vengeance qui doit nous animer, bien que nous savons très bien qu'un jour Dieu vengera son peuple, les siens et les saints. Mais pour nous, c'est un esprit de compassion pour les âmes perdues qui sont aveuglées par le péché. Et ce sera le cas très certainement dans ces derniers temps vers lesquels nous avançons. La quatrième coupe nous est présentée au verset 8 et 9. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. On a cette expression d'ailleurs ici, il lui fut donné. Donc c'est Dieu qui va donner au soleil d'une façon surnaturelle d'augmenter de beaucoup, beaucoup sa chaleur. Donc avec la quatrième trompette, nous avions vu que la clarté du soleil avait été réduite d'un tiers. Ici, la force de sa chaleur est augmentée radicalement au point de brûler les hommes. Mais malgré tout, les hommes continuent de blasphémer Dieu au lieu de se repentir. Et n'oublions pas que les hommes savent d'où viennent ces fléaux. Ils disaient aux rochers et aux montagnes, tombez sur nous, Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? » Ça, c'est Apocalypse 6, versets 16 et 17. Il le savait déjà. Il le savait, mais ils persévèrent dans leur attitude de blasphème et d'endurcissement de cœur et ne se repentent pas du tout. C'est ce qui est peut-être le plus étonnant même, outre le fait que les jugements sont hyper intenses, ce qui est très, c'est étonnant, je veux dire, on est ébranlé devant ça, mais franchement, de voir à quel point le cœur humain peut être dur, ben, je l'ai mentionné au tout début de cette session-ci, c'est vrai que c'est étonnant et ça nous amène à regarder les hommes en nous disant, mais comment ça se peut, mais rappelons-nous qu'on était comme ça, je veux dire. Nos cœurs à nous étaient aussi durs. Qui sait si nous-mêmes n'aurions pas eu ce cœur dur jusqu'à la fin, si Dieu ne s'était pas révélé à nous. Donc, je n'oublie pas d'où je viens. La cinquième coupe est au verset 10 et 11. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint obscurci, et ils mordaient leur langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ce jugement frappe directement le règne de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist. Son temps était court, il le savait d'avance. Lorsqu'il a été chassé du ciel, le diable, il savait que son temps était court. Eh bien, maintenant, il est arrivé à son terme. Pour la dernière fois dans l'Apocalypse, les hommes vont refuser de se repentir, mais ils vont continuer de blasphémer Dieu encore. La sixième coupe nous est présentée dans les versets 12 à 16. Et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que la voix des rois qui viennent depuis le lever du soleil soit préparée. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, la fausse trinité, trois esprits impurs, comme des grenouilles. Donc, le « comme des grenouilles », comprenons-le comme une parenthèse. Ces trois esprits impurs étaient comme des grenouilles. Ce sont des esprits de démons faisant des signes qui sortent vers les rois du monde tout entier pour les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Et là, je mets une parenthèse. Voici, verset 15, « Je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et qu'il ne voit pas sa honte. » Ferme la parenthèse, verset 16. « Et ils les rassemblèrent au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. » L'Euphrate ici est desséché afin d'ouvrir la voie aux puissances orientales vers la terre sainte. On voit que des esprits méchants qui proviennent de cette fausse trinité partent pour rassembler les rois, les chefs d'État de toute la terre, du monde entier, dans la vallée de Megiddo. Et Megiddo est cette plaine qui est située entre le mont Carmel à l'ouest, le mont Gilboa à l'est, le mont Tabor au nord et le mont Megiddo lui-même qui est situé au sud. D'ailleurs, Armageddon signifie en hébreu « montagne de Megiddo ». Har, montagne, Megiddo, donc la montagne de Megiddo. Et il y a, au centre de ces montagnes que je viens de nommer, cette plaine qui est assez immense et qui sera le lieu de rassemblement. Et pas forcément le lieu de la bataille, même si on dit souvent la bataille d'Armageddon, il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que la bataille n'aura pas lieu à Megiddo, mais bien plutôt à Botsra, en fait, qui est Petra aujourd'hui en Jordanie, donc dans le sud, et ensuite dans la vallée de Josaphat, qui est carrément le nord de la vallée du Cédron, c'est-à-dire celle qui sépare l'esplanade du temple de la montagne des Oliviers, donc Jérusalem même. Et c'est là d'ailleurs que Jésus va triompher de ses armées rassemblées pour lui faire la guerre. Et ensuite, quand il aura vaincu, il va gravir la montagne des Oliviers, poser le pied sur le sommet de la montagne qui va se séparer en deux à ce moment-là. C'est un geste typique de victoire de l'époque. Donc, Jean pouvait très bien comprendre cela, comme tous ceux qui, auparavant, avaient annoncé, prophétisé cette venue, je pense au prophète Zacharie dans l'Ancien Testament, symbole de victoire, pose le pied sur la montagne. Voilà, Christ est victorieux. On voit le rassemblement dont il est fait mention ici de façon très brève dans l'Ancien Testament. Donc, il y aura un très grand rassemblement dans le livre de Joël au chapitre 3. Et puis, franchement, Joël, c'est un livre dont le thème principal est le jour de l'Éternel, comme Sophonie d'ailleurs, comme Ésaïe 63, comme beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent du jour de Yahweh, le jour de l'Éternel, la 70e semaine de Daniel, la tribulation, grande tribulation. On parle toujours de la même chose quand on utilise tous ces termes et expressions différents. Eh bien, Joël 3:2 dit ceci. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. On voit encore dans les versets 9 à 14, publier les choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, etc. C'est le langage de rassemblement. On le voit d'ailleurs au verset 11. Hâtez-vous, nations d'alentour, rassemblez-vous. Et franchement, ce sera pour un combat qui sera très court que le Seigneur Jésus va triompher, bien entendu, sans l'aide de personne. Il sera tout seul à remonter de cette vallée d'Édom dans Ésaïe 63. Mais les saints seront là pour contempler le triomphe du Seigneur. Ah, c'est hallucinant tout ce qu'on va voir et ce qui nous sera donné de pouvoir contempler dans les choses à venir. Bien entendu qu'on va certainement regarder tout cela avec des yeux très différents, j'imagine. Et voilà donc ce dont il est question dans cette sixième coupe. Et puis la septième, les versets 17 à 21, nous dit ceci. Et le septième versa sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du sanctuaire depuis le trône, disant, c'est arrivé. Et il y eut des éclairs et des grondements et des tonnerres, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre aussi important, aussi grand. Et la grande ville devint en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Babylone la grande fut rappelée devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Quelle expression intense! Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grosse grêle, pesant environ un talent, descend du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau, ou son fléau, était très grand. C'est une plaie immense que cette plaie-là. L'air et la terre sont frappés. Babylone tombe. Et malgré tout, les hommes continuent de blasphémer Dieu. Donc, ce sont des jugements qui sont évidemment très intenses. Bien entendu, ici, on parle de la séquence chronologique des jugements de Dieu à travers ces sept coupes. Mais dans la suite des choses, nous allons revenir en détail sur la chute de Babylone, de ce système qui ne durera pas toujours. Merci Seigneur, il a abrégé ses jours à cause des élus, c'est-à-dire qu'il en a fixé une durée, et pas plus de 1260 jours, quand on parle bien sûr de la grande tribulation, cette deuxième, seconde moitié de la 70e semaine de Daniel, Dieu va y mettre un terme et par la suite instaurer ce grand royaume messianique tant attendu dans lequel nous aurons une part, un rôle à jouer, peut-être déterminé même par la fidélité dans notre service actuel pour le Seigneur. C'est une autre discussion. Je vais faire une pause ici pour donner l'occasion maintenant de poser des questions. J'ai laissé volontairement quelques détails de côté pour permettre justement d'avoir des questions sur les points qui vous intéressent d'une façon particulière. Mais je voyais en cours de route beaucoup de choses. Bien entendu qu'on aurait pu prendre le temps, mais il reste à peine 15 minutes maintenant. Alors, Nata, à toi la parole pour diriger cette période de questions, si tu juges que c'est bien le moment.
Oui, tout à fait. Merci, Gilles. C'est vrai que c'est un peu un sprint pour courir après toutes ces expressions et puis ces passages pas toujours simples à comprendre. On va poursuivre effectivement par une période de questions et on va revenir un chapitre plus loin sur cette question des vendanges. Et de la faucille. Pourquoi vendanger avec une faucille? J'imagine que ça fait allusion au chapitre 14, à la fin du chapitre 14, voilà, au verset 19. Et l'ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu.
Bien, en fait, ça évoque simplement un instrument connu pour moissonner, pour vendanger à l'époque. C'est tout. C'est un instrument qui était bien connu. Mais au sens figuré, eh bien, l'image de la faucille tranchante évoque le jugement du Seigneur contre ses ennemis lors de sa seconde venue. Donc, c'est une image que l'on voit, qu'on peut percevoir déjà dans les textes de l'Ancien Testament, dans les textes des discours du Seigneur, soit par les paraboles ou soit par les discours directs sur la prophétie à la montagne des Oliviers, par exemple. Donc, il utilise l'image d'un instrument connu pour la moisson et en fait un symbole de l'exécution d'un jugement à venir.
Merci. On a de nouveau parlé de temple dans les derniers, dans ce dernier chapitre, notamment au verset 1 du chapitre 16. J'imagine que là, tu l'identifies avec de nouveau le lieu de la présence de Dieu, le sanctuaire. Qu'en est-il du temple du verset précédent, c'est-à-dire du verset 8 du chapitre 14, et le temple fut rempli de la fumée qui procédait de la gloire de Dieu. Est-ce que là aussi, c'est ce temple où il y a la présence de Dieu, le sanctuaire, ou bien est-ce que c'est ce fameux troisième temple?
Non, il s'agit toujours là de la présence de Dieu dans le ciel. Et puis, c'est bien entendu une image qui est appuyé sur la présence de Dieu parmi son peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et donc, quand on voit le sanctuaire, on a l'image du tabernacle. Et donc, ici, l'image du tabernacle est particulièrement utilisée pour symboliser le fait que Dieu, dans ses jugements, ne doit pas être approché. C'est vraiment particulier, mais c'est simplement une imagerie qui s'appuie. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, à l'époque du tabernacle, ce qui sera vrai aussi par la suite avec le temple, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et quand sa gloire remplissait le temple, les gens sortaient, hein, même ceux qui avaient accès, parce que c'était envahissant, c'était quelque part même, ça faisait peur, ça suscitait une grande crainte que de voir la présence de la nuée glorieuse de Dieu qui remplissait le tabernacle ou le temple. Waouh, c'était vraiment impressionnant. Ça faisait ressentir à l'homme son indignité à se retrouver dans cette présence. Eh bien, ici, de manière à insister sur la grandeur et l'importance des jugements de Dieu contre l'homme, on voit même une sorte d'obstacle qu'on ne peut pas entrer dans la présence. Quand il est dit que personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire, là c'est le verset 8 que je regarde, c'est une phrase qui indique l'impossibilité de s'approcher de Dieu pendant cette période de jugement. C'est pas le point, c'est pas de nous dire que Personne ne pouvait plus du tout approcher Dieu à ce moment-là. Ça fait simplement que rappeler la présence glorieuse et sainte de Dieu près de l'homme pécheur qui va être jugé. Vous savez que présentement, cette image-là, elle nous dit ceci. Jésus, par son sacrifice à la croix, le voile est déchiré et son sacrifice, son corps, est lui-même le voile par lequel nous pouvons tous entrer dans la sainte présence de Dieu dans son sanctuaire. Donc, de façon symbolique, l'évangile que nous prêchons aux pécheurs perdus leur dit, vous pouvez par Jésus entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez que c'est un langage figuré. Jésus, son corps n'est pas un voile. Et on n'entre pas dans un sanctuaire matériel. On entre dans la présence même de Dieu. Eh bien, ici, l'Apocalypse utilise à nouveau le langage figuré d'un sanctuaire ou d'un tabernacle ou d'un temple pour dire Dieu, en colère, manifeste sa sainteté et ses jugements contre l'humanité pécheresse et personne ne peut tenir devant lui. Vous voyez le point? Personne ne peut tenir devant lui maintenant. En réalité, s'il y a des gens qui se convertissent pendant, et certainement qu'il y en aura, pendant même que Dieu déverse ses jugements, ils vont entrer dans le sanctuaire, dans le sens qu'ils vont trouver leur place, eux aussi, parmi les sauvés. Mais cette phrase-là insiste simplement sur le fait que Dieu, dans sa sainteté, manifeste maintenant ses jugements contre une humanité pécheresse qui ne peut pas se retrouver dans sa présence et ne pourra pas y rester. C'est juste une façon d'insister sur la sévérité des jugements de Dieu.
Merci. On vient sur deux questions pour ces sept coupes qu'on a vues au chapitre 16 de chronologie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de notion de durée de ces sept coupes? Ça, c'est une des premières questions. Puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut définir le déroulement de ces sept coupes dans le temps? Est-ce pendant, après la grande tribulation ou après le millénium?
Bien, on ne peut pas répondre précisément à ces deux questions, ou disons aux deux volets de cette question temporelle ou chronologique, à partir du seul chapitre 16, par exemple. Il faut tenir compte de ce que l'Apocalypse dit ailleurs. Il faut tenir compte de la chronologie biblique dans son ensemble. Et c'est là que va contribuer l'état de nos connaissances générales sur non seulement le livre d'Apocalypse, mais bien entendu sur le schéma prophétique global de la Bible. Et en reconstruisant la chronologie non seulement du livre lui-même, de l'Apocalypse, avec les autres textes, par exemple, comme la prophétie de la 70e semaine de Daniel au chapitre 9 de son livre, les discours de Jésus dans Matthieu 24, aussi les révélations de Paul aux Thessaloniciens. Alors, quand on reconstruit cette chronologie des événements, bien, on arrive avec la conclusion que sans connaître de manière précise la durée de chaque coupe, ce qui n'est pas déterminé de toute évidence, nous comprenons qu'il s'agit des derniers jugements qui auront lieu pendant les derniers 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel. Ou si on peut dire, ce sont des jugements qui vont se dérouler à travers cette période de 3 ans et demi, de 1260 jours, de 42 mois de cette période qu'on appelle aussi grande tribulation. On ne peut pas, certainement pas, je pense à l'aide des données bibliques, être plus tranchant que cela. Mais ce sont quand même 3 années et demi très intenses. Et ça correspond parfaitement à la pleine révélation de la fausse Trinité, le diable qui a été chassé du ciel et qui maintenant est enragé sur la terre. Et puis voilà, les jugements vont tomber au fur et à mesure même que l'Antichrist va manifester toute sa puissance, qui sera très facilement renversée à la toute fin.
Merci. On poursuit avec une autre question. Le jugement de la première coupe atteindra ceux qui ont la marque de la bête, mais cela n'est pas répété pour les 6 autres coupes. Peut-on comprendre que cette protection des croyants sera étendue à toutes les coupes?
Ah oui, parce que j'avais suggéré que puisque Le texte dit, ceux qui ont adoré s'impliquaient qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas adoré. Oui, on trouve d'ailleurs des passages qui parlent de la protection de Dieu sur ceux qui lui appartiennent pendant ces moments très intenses-là. Par exemple, l'idée que Dieu puisse, pendant 1260 jours, prendre soin de son peuple dans les montagnes, les nourrir là-bas, les protéger. Il semble très clair qu'il va y avoir même une région du Moyen-Orient qui correspond apparemment à la Jordanie et surtout à la partie entourant Petra, qui était Batra à l'époque. Eh bien, il y a une zone là où l'Antichrist n'aura pas de pouvoir. On ne sait pas exactement comment. Le texte ne le dit pas, ne donne pas autant de détails. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui repose sur des promesses de Dieu lui-même, c'est qu'il va prendre soin des siens pendant cette période et va les nourrir et va les protéger. Maintenant, il y en a aussi qui vont tomber. Il y en a qui vont être persécutés et qui seront martyrs. Mais dans un cas comme dans l'autre, leur salut est entre les mains du Seigneur. Ils sont en pleine sécurité. On a déjà vu, d'ailleurs, l'âme de ceux qui sont martyrisés pendant la 70e semaine de Daniel qui réclament justice dans le ciel même. Et puis le Seigneur leur dit d'attendre simplement le déroulement des événements. Alors, il y aura des gens qui vont mourir, d'autres qui vont être protégés, mais dans tous les cas, sont en sécurité quant à leur salut dans les mains de Dieu. Et puis, Dieu est souverain. Il ne dit pas que ceux qui vont rester en vie le seront par privilège ou parce qu'ils auront mérité cela. La Bible n'est pas à ce point détaillée, à part ma connaissance actuelle en tous les cas. Mais je vois les deux situations se présenter clairement dans l'Apocalypse.
Au chapitre 16, verset 19, est la grande ville. De quelle grande ville s'agit-il?
Alors, je suis très content d'avoir cette question-là parce que ça fait partie des points que j'avais notés en cours de route, mais je me dis, est-ce que j'ai le temps? Ah, je passe tout droit, et puis s'il y a une question, tant mieux. Cette expression-là, au début du verset 19, littéralement, « et la grande ville devint en trois parties », c'est pas évident, c'est pas facile de décider de quelle ville il s'agit. Il y a deux possibilités. Quand on considère ce que les commentateurs et interprètes pensent de ce passage-là, on voit qu'il y a un partage d'opinion entre deux villes. La ville de Jérusalem, d'une part, et la ville de Babylone, d'autre part. Et les arguments sont aussi bons d'un côté comme de l'autre, parce qu'en fait, on a très, très peu d'informations ici, et on arrive avec cette déclaration-là tout à coup, bien entendu dans un contexte où on voit Babylone tomber, donc ça favorise peut-être la ville de Babylone, mais il y a d'autres textes qui parlent des bouleversements et changements géographiques que Jérusalem va subir pendant cette période-là. Donc, il y a des personnes qui pensent qu'il est question de la ville de Jérusalem, et donc on parlerait de changement géographique qu'elle va subir, et d'autres qui parlent de Babylone et qu'il s'agirait d'une métaphore pour dire qu'elle va être détruite complètement. La métaphore, c'est celle d'être divisée en trois parties qui serait une destruction complète de la ville. Donc, contextuellement, en tenant compte non seulement du passage immédiat, mais de ce que l'Apocalypse dit avant, après et d'autres textes de la Bible, les deux possibilités existent. Moi, je ne me décide pas. J'accepte que ça puisse être les deux. De toute façon, les deux sont possibles et peut-être que même les deux vont arriver dans un sens. On voit, en fait, c'est sûr que les deux vont arriver, mais je veux dire, est-ce que ce texte-là s'applique aux deux? Ça, on le verra bien. Mais c'est vrai que Jérusalem va subir des modifications importantes et c'est vrai aussi que Babylone va être complètement détruite. Alors, je ne sais pas si ça répond bien, mais...
Oui, bah, écoute, oui.
Voilà. Ça fait partie des
prudent,
nombreux textes...
Bien.
Oui, ça fait partie des nombreux textes d'Apocalypse qui peuvent avoir plus qu'une interprétation sans faire violence au contexte.
Merci, Gilles. On va prendre une dernière question et puis ensuite on conclura, c'est l'heure. J'aimerais remercier tous ceux qui ont posé des questions. Il y a encore des questions auxquelles, malheureusement, on n'a pas le temps de répondre, mais il y sera répondu par, par écrit, comme on a l'occasion de le faire aussi quelquefois. Je vais prendre une dernière question, c'est toujours sur ce chapitre 16 et en particulier sur le verset 20. Et toute île s'enfuit et les montagnes ne furent pas trouvées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce verset?
Ben, probablement, littéralement, dans le sens où il va y avoir d'immenses, mais immenses bouleversements géographiques sur la Terre. C'est l'avis là, des commentateurs, là, comme MacArthur, si je ne fais pas erreur, je n'ai pas revérifié, là, mais j'arrive là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, je ne vois pas nécessairement un sens symbolique ici. Surtout parce que dans le contexte immédiat, si vous lisez le verset 18, il y eut un grand tremblement de terre comme jamais auparavant. Il y a même une parenthèse là à la fin du verset 18, ce que moi je comprends comme étant une parenthèse même en grec. Après avoir dit tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, parenthèse, un tremblement de terre aussi important, aussi grand. Et là, on parle de grand dans le sens d'une très forte intensité. Donc, il ne serait pas surprenant que ce qui suit, ce qui favoriserait Jérusalem dans un sens au niveau de la division, est-ce que c'est suite à tous ces bouleversements-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'ont causé? Mais ça semble être clairement le résultat des mouvements important sur la Terre. Donc, peut-être que c'est dans le sens juste littéral de dire qu'il y a des îles qui vont complètement disparaître. Parce qu'en fait, le verbe s'enfuir au sens figuré, en grec, il signifie disparaître. Même chose pour le verbe trouver. Ne fut pas trouvé dans le sens de c'est disparu. On ne le trouve pas parce que c'est plus là. Donc, les deux verbes sont utilisés de manière synonymique au sens figuré pour parler de disparition. Et c'est probablement au sens littéral. Autrement, là, si on essaie de voir un sens figuré dans île ou montagne ici, ben, on n'a pas beaucoup d'appui. Je veux dire, peut-être que là, l'imagination peut embarquer, si je m'exprime bien. Mais par contre, on a un appui solide avec les bouleversements qui se passent au niveau de la Terre dans le contexte même.
Parfait. Merci beaucoup, Gilles, pour cette dernière réponse. Et puis, on a Pierre qui nous a rejoint dans les panélistes et qui va conclure cette partie. Merci, Pierre. On te laisse la parole.
Oui, merci. Puis moi, je veux juste vous dire merci aussi d'avoir été là jusqu'à ce point, puis dans l'espérance qu'on se retrouve avec Roger Libby déjà en janvier, et puis pour la suite des choses. Et puis je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, de très joyeuses fêtes, de bons moments avec vos amis, vos familles et votre famille dans le Seigneur aussi. À tout bientôt. Merci Pierre, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Gilles, pour cet exposé clair, mais qui est troublant, effectivement, surtout pour le monde qui est sans Dieu. Et puis, entendre parler de ces choses, le monde a peur aujourd'hui. Mais l'Église n'a pas peur, parce qu'elle a une espérance glorieuse. Je vais vous lire la strophe d'un cantique qu'on connaît bien. Cette espérance glorieuse ranime nos cœurs abattus. Oh, quelle perspective heureuse d'être bientôt avec Jésus. Que l'Église aujourd'hui s'apprête pour l'heure de ce rendez-vous. C'est la veille d'un jour de fête. Voici l'époux, voici l'époux. Et dans ce qu'il est dit que l'Église s'apprête, je pense à notre témoignage en tant qu'Église, mais aussi à l'évangélisation, le rôle que nous avons actuellement de proclamer l'Évangile dans le monde entier. Et c'est tellement merveilleux que la Bible soit traduite dans tant de langues, que les messages de l'Évangile sont traduits jusqu'à 7000 langues et dialectes. Eh bien, continuons à accompagner ce travail merveilleux pour que nombreux soient sauvés avant ces jours terribles et d'horreur. Ne soyons pas dans la crainte, dans la peur. Nous avons une expérience glorieuse. Je vais prier. Mais Dieu Père, nous te remercions pour cette espérance qui est devant nous et que cela nous motive pour te servir, pour proclamer ton évangile, pour vivre des vies d'église et de famille qui soient heureuses en bon témoignage dans ce monde. Merci pour cette soirée, pour tous les enseignements reçus, et veuille continuer de bénir Gilles dans son ministère. Merci aussi pour Claude Henry, pour tout l'aspect technique qu'il a réalisé, et bénis abondamment tous ceux qui étaient à l'écoute dans divers pays, et qu'ils puissent être fortifiés dans leur foi, sachant que nous sommes sous ta protection, Seigneur Jésus, notre bon berger. Amen.
Au revoir à tous.